BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
Au sommaire des pionniers, cette semaine, on commence par le tête-à-tête avec un pionnier de l'humour français. Depuis plus de 30 ans, il déniche celles et ceux qui nous font éclater de rire. Anne Roumanoff, Laurent Gérard, Blanche Gardin, Anthony Cavana ou encore plus récemment Paul Mirabel. Visionnaire, il a été le premier à capter ces spectacles d'humour et à les diffuser librement sur Internet. Il cumule aujourd'hui des millions d'abonnés et plus d'un milliard de vues sur ses vidéos. Oui, c'est bien lui qui a fondé le Montreux Comédie Festival, le plus grand gala d'humour francophone au monde. Nous aurons le plaisir de recevoir Grégoire Fureur.
Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Henri Buneau, fondateur de Concrète, la solution économique simple et rapide pour vos matériaux. Et ensuite, Thomas Cottier, fondateur de Sunetic, un panneau solaire plug and play pour être facilement installé et utilisé par des particuliers.
Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Grégoire Fureur.
Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Fureur. Bonjour Grégoire.
Bonjour Fred.
Alors, tu es un visionnaire de l'humour, non seulement parce que tu as fondé il y a plus de 30 ans le Montreux Comédie Festival, mais aussi parce que ton activité consiste en fait à aller te balader sur toute la planète pour rechercher, repérer, recruter les grands humoristes de demain, ce qui revient en quelque sorte à prévoir l'avenir par les tendances et par l'humour. Donc Anne Roumanoff, Laurent Gérard, Éric Ramsey, Gad Elmaleh, Blanche Gardin, Éric Antoine, Jérémy Ferrari, Anthony Cavana, j'arrête là la liste, Paul Mirabel, tous sont passés sur tes planches et tu en as révélé quelques-uns, tu en as propulsé quelques-uns pour les dénicher. Tu vas aux quatre coins de la francophonie, en Belgique, au Québec, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Nord. Pour toi, tout le monde peut faire rire tout le monde. Et c'est paradoxalement en rendant gratuit l'accès à l'humour, grâce à une utilisation intelligente et originale des réseaux sociaux et de YouTube dès le début, et en voulant faire de l'humour un art à part entière et en confectionnant ce que tu appelles un écrin autour de l'humour, que tu as construit un véritable empire qui, lui, n'est pas une blague. Merci donc Grégoire de venir aujourd'hui dans Les Pionniers, nous partager les coulisses de ton parcours inspirant. Je suis curieux, on est curieux, on est tous curieux de plonger dans ton univers pour comprendre ton monde, tes émotions, ton fonctionnement, tes motivations, tes apprentissages. Et notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra ici en plateau avec nous. Alors on commence tout de suite par ton parcours. Tu es né en 68 à Genève, tu as grandi à Montreux, ville alors connue principalement pour son célèbre festival de jazz, avant que tu ne viennes tout chambouler avec ton festival d'humour. Alors quel type d'enfant tu étais ? Plutôt blagueur ? Plutôt bon public ? Plutôt les deux ?
Non, j'étais plutôt blagueur, plutôt j'étais un peu turbulent aussi, je faisais beaucoup de choses, un peu, on dirait aujourd'hui, hein, comment on appelle ça, un enfant hyper dynamique ou comment, un peu suractif,
oui.
Hyperactif. Voilà,
je faisais beaucoup de choses. C'est TDA, je crois, ça s'appelle.
Ouais, sûrement, ouais. Un truc comme ça. Mm. Mais ouais, je faisais beaucoup de sport aussi. J'étais très sportif. D'ailleurs, ma première carrière, je voulais être footballeur professionnel, donc je m'entraînais beaucoup. Donc oui, je faisais beaucoup de choses, voilà, très actif.
Et footballeur professionnel, tu voulais, parce que tu étais attiré par le foot ou parce que tu avais commencé à jouer au foot?
Mon père était un passionné de foot et il lui-même a été pro, et puis mais à une autre époque. Hein. Et puis moi, c'est vrai que j'aimais bien ça, donc c'était chouette. J'ai beaucoup aimé cette... Puis après j'étais dans les sélections, donc voilà, c'était une petite vie sympa. Mais j'ai toujours gardé sportif, parce que pour moi c'est important, c'est une hygiène de vie, mais c'est vrai que ça m'a aussi aidé à démarrer le premier festival, parce que comme j'étais très intégré dans un écosystème un peu people, local... Très local, hein, à Montreux,
du foot,
avec des sponsors, voilà, tout qui m'ont un peu aidé au départ. Ça m'a permis de démarrer mon histoire.
Ouais. Alors justement, cette histoire, son démarrage, eh bien, c'est Rebecca qui va nous la raconter.
Alors, il paraît que tout a commencé par une histoire de pote. Brillant élève de HEC Lausanne, vous vous investissez autant dans les études que dans la vie du BDE. Qu'il s'agisse de soirées, de sorties sportives, d'événements, vous en êtes à l'initiative. Vous êtes alors sportif d'élite, mais une blessure vous empêche de poursuivre votre carrière pleinement. Et un jour, vous 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 mettez en tête d'aider vos copains drôles, considérant que l'humour est un art majeur qui mérite un écrin, un grand festival. Bien décidé à convaincre des producteurs français, vous montez d'abord à Paris, vous parlez aux gens au culot, et c'est comme cela que vous approchez Olivier Lejeune, devenu incontournable producteur, et que vous intégrez par votre audace, qui a accepté de venir à Montreux. Vous vous rendez d'abord au Festival de Montréal juste pour rire, et ce sera le choc. Vous appréhendez cette machine qui allie programmation ultra riche et partenariat télévisé. Vous passez ensuite des années à parcourir les scènes à la recherche de jeunes humoristes prometteurs tout en restant proche des artistes confirmés. Et vous réussissez là, à force d'insistance et prenant que content is king, que le contenu est roi, à obtenir le go de Gilles Marchand, le grand patron de RTS, la chaîne suisse, et devenir ainsi un pionnier de la captation de l'humour.
Oh, je peux réagir?
Ah, tu peux.
Bon, déjà, j'étais pas brillant en HEC, hein, parce que j'ai pas terminé, mais j'étais effectivement avec mes potes en HEC. Non, mais c'est vrai que j'avais des copains qui voulaient faire du stand-up et qui voulaient faire de l'humour. Et à l'époque, c'était très marrant parce que aujourd'hui, on a des comédie clubs dans toutes les villes. À l'époque, en Suisse, mais même en France, il y avait pas de comédie club. Donc, il y avait des théâtres ou des cafés-théâtres et il fallait monter un spectacle, obtenir l'accord du programmateur. Et si on n'avait pas un track record, hein, si on n'avait pas déjà fait quelque chose, un parcours, un CV, une vidéo pour montrer ce qu'on faisait, ou enfin, bon, à l'époque c'était une VHS, hein, mais je veux dire, si on n'avait pas quelque chose, c'était impossible d'être programmé dans un théâtre. Et mes copains, en fait, qui nous faisaient rire, parce qu'ils faisaient eux des spectacles dans des bars et tout ça, n'avaient pas accès au marché. Donc moi, je leur ai dit, on va monter un festival. Et puis ça va vous permettre de vous faire connaître. Donc c'est assez rigolo comme histoire.
Alors c'est un rôle qui n'est pas tout à fait un manager, mais qui est quand même. Alors t'avais des copains de rôle que tu voulais faire connaître au plus grand nombre. Mais comment tu fais pour convaincre quelqu'un comme Olivier Lejeune à l'époque les plus anciens d'entre nous se souviennent de la classe avec Fabrice et Olivier Lejeune.
Ouais, exactement. Au culot vraiment. Mais moi j'ai fait ça quasiment toute ma vie, c'est-à-dire d'aller voir les gens, les rencontrer, donc essayer de les attraper. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand on raconte ça aujourd'hui, maintenant que ça fait 20 ans.
Et culot, c'est pas forcément impoli, hein. Enfin, c'est
non.
Juste tu y vas, quoi.
Tu y vas, mais tu vois, par exemple, je savais où ils enregistraient leur émission, c'était en pleine Saint-Denis, donc j'ai attendu la fin de l'émission, ils sont sortis, il y avait plein de fans autour d'eux qui leur faire signer des autographes. Moi, je suis allé et je lui ai dit, j'ai un festival et j'aimerais vous en parler. Et donc, j'ai capté le regard, et puis Olivier m'a dit, écoute, viens me voir à mon bureau demain, et puis voilà l'adresse, et puis j'y suis allé.
Et alors, pendant 20 ans, tu fais grandir ce festival, t'es parti même, je crois, avec 1500 francs suisses poche au tout départ. Je pense que des francs suisses et pas des francs français, hein, déjà, t'as pris un petit peu d'avance.
Tu vois, c'était mes économies du foot, donc tu vois, j'étais soit un mauvais footballeur, soit ça payait moins bien à l'époque qu'aujourd'hui. Mais oui, j'avais quelques économies,
et
j'avais
financé,
investi,
j'ai
acheté un fax.
D'accord, t'avais grévé un peu le budget,
c'est plus jeune, ça. C'est quoi un fax? Mais j'avais acheté un fax pour pouvoir échanger déjà avec l'international.
Et donc pendant 20 ans, tu fais grandir ce festival, mais en 2009, t'as un peu l'impression de tourner en rond.
Ouais.
Tu te dis que t'as atteint un palier. Alors comment tu débloques la situation?
Tu vois, pourquoi je tournais en rond? Parce que déjà, ça faisait 20 ans que je faisais la même chose. En humour, à l'époque, tu vois, ça se renouvelait pas aussi vite que ça qu'aujourd'hui. T'avais un peu toujours les mêmes artistes qui revenaient. Tu vois, c'était toujours un peu les mêmes têtes d'affiche. Et puis, moi, j'ai toujours, comme disait ta collègue tout à l'heure, j'ai toujours voulu mettre le contenu en avant. Donc, j'ai toujours eu un rapport avec la télévision, qui était le média de prédilection de l'humour. Donc, souvent, les chaînes de télévision me disaient, encore les mêmes. Est-ce que tu peux pas te renouveler? Puis, je disais, c'est compliqué de se renouveler quand on a une dizaine de têtes d'affiche. Et puis, chaque année, c'est un peu les mêmes. Donc, je me rendais compte que les chaînes trouvaient notre produit un peu moins sexy. Et puis que moi, je voyais pousser une nouvelle génération d'humoristes que j'aimais beaucoup. Alors, il y a 15 ans, c'était Jérémy Ferrari, Éric Antoine, tu as parlé de Blanche Gardin tout à l'heure. Des gens comme ça que j'arrivais pas à mettre en télévision dans les chaînes classiques parce qu'on me disait « oui, mais c'est pas connu » ou « c'est trop vulgaire » ou « c'est trop cru », etc., etc. Alors que moi, je trouvais absolument pas vulgaire ni cru, je trouvais ça juste génial. Et donc je me disais « ouais, j'arrive dans une espèce de… » Je voyais que mon public dans la salle était jeune, que le public en télévision était plus âgé et je me disais « il y a une espèce de grand écart que je vais avoir de la peine à combler ». Et donc, je me suis dit « la meilleure chose à faire, c'est de prendre une année entre guillemets sabbatique » que je dis sabbatique vraiment de manière un peu imagée, mais de me dire, plutôt que de retourner à Avignon, festival de théâtre, à Montréal, retrouver les mêmes personnes, les mêmes producteurs, parler des mêmes problèmes, je vais plutôt aller voir des festivals tech ou des festivals d'innovation.
Mmh.
Donc, voilà.
Tu sors de ta zone de confort.
Complet.
Et là, tu vas voir autre chose.
Je vois autre chose. Donc, j'étais voir les conférences TED, par exemple. Mais ce qui a vraiment changé ma vie, c'était, j'avais à l'époque un ami qui travaillait avec moi, mais qui s'occupait de la chaîne YouTube du festival qui démarrait et qui me dit, mais toi, t'es suisse, il y a un événement incroyable à Genève qui s'appelle Lift, qui était organisé par un gars génial qui s'appelle Laurent Haug. Et il me dit, mais t'es suisse, va là-bas, c'est vraiment la mecque de la tech, c'est le festival des idées, il y a plein de gens incroyables. Donc moi, je regarde sur Internet et je vois que leur prochaine session était en Corée du Sud. Donc je me dis, c'était quelques mois plus tard, donc je me dis, ça va me faire du bien d'aller à l'autre bout du monde, ça va me changer la tête. Et donc je suis parti en Corée du Sud. Et je suis arrivé sur cette conférence où effectivement, j'ai rencontré les gens qui montaient YouTube, en fait, qui étaient derrière YouTube. Alors ça existait déjà YouTube, mais c'était moi j'en avais jamais entendu parler. Et j'ai parlé avec eux et j'ai vu les démos, j'ai vu des choses qui m'ont complètement inspiré et je me suis dit c'est là qu'il faut aller quoi, c'est là qu'il faut aller.
Et donc là tu décides de rendre quelque part disponible sur YouTube tous les humoristes que tu peux croiser, mais aussi de les rendre gratuits et c'est là qu'on te dit t'es un peu fou parce que si tu fais tout gratuit, t'auras plus personne dans tes salles. Et alors qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai pas écouté. Voilà. J'ai pas écouté. Donc j'ai dit on va le faire parce que
on va le faire quand même.
On va le faire quand même et puis j'ai aussi eu à ce moment-là la chance d'avoir un service public en Suisse qui était le gros sponsor du festival qui achetait les droits du festival. Vous avez cité Gilles Marchand, donc lui était le patron de la télévision suisse romande et je lui ai dit Gilles. À RTS, oui. Et je lui ai dit, Gilles, moi, je rentre de Corée. J'ai vu que je pense que les chaînes YouTube... Enfin, on appelait même pas les chaînes YouTube, mais je disais les chaînes digitales. Il y avait Dailymotion aussi. C'était la fin de MySpace. Enfin, j'ai dit, il faut qu'on partage les droits. Donc, moi, j'ai besoin que tu m'autorises à ce que je te donne en télévision pour ton public. Je puisse le mettre aussi sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, c'était pas évident. Ils achetaient les droits tout réseau confondu. Et ça a été un pari gagnant parce que quelques années plus tard, alors ça a mis du temps, hein, parce que on est en 2008. Moi, je pense que ma chaîne YouTube a vraiment décollé en 2014, donc 5-6 ans après quand même. Mais c'est vrai que les artistes me disaient, ah, c'est dingue. J'étais à Montpellier, je prends un exemple, ou à Bordeaux, et le public me disait, je vous ai découvert sur la chaîne de Montreux Comédie. Et donc les artistes me disaient, c'est pas le passage en télévision sur France 4 ou France 2 qui m'a amené du monde dans la salle, c'est le passage de Montreux sur YouTube. Et même eux, certains artistes, ne savaient même pas identifier que je les avais mis sur YouTube, en fait. Donc, je ne savais même pas que j'étais sur YouTube. Et du coup, j'ai senti que là, j'avais gagné mon pari d'entrepreneur, en fait.
Et alors, pari encore plus gagnant, parce qu'après est arrivée la pandémie. Et donc, le fait que toi, tu sois déjà prêt, quelque part, à savoir diffuser ton contenu sur Internet, a fait que tu as pu accélérer. Comment ça s'est passé? Alors, il y a beaucoup de... Pour les arts et la culture, ça a été quand même une période extrêmement difficile. Mais toi, tu es passé au travers.
Ouais, on a fait une année difficile parce que toute la partie live de notre business a été fermée. Donc, ça a été très compliqué. Mais c'est vrai que tout d'un coup, je voyais des gens qui disaient, il faudrait qu'on mette des trucs sur YouTube. Et moi, nous, on était déjà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait plein d'anciens galas ou d'anciens spectacles dont on avait les droits et on s'est dit, on va les mettre sur la plateforme pour que les gens puissent avoir des spectacles entiers et non pas des extraits sur YouTube. Donc, ça a très bien marché. Et puis, ce qui a aussi été fou, c'est que tout d'un coup, plein de gens avec qui on n'avait pas le temps de parler à l'autre bout du monde, notamment en Afrique, beaucoup de gens avec qui ça serait bien qu'on se voit une fois. Enfin, tu vois, c'était avant la pandémie, puis on n'arrivait jamais à se voir. Moi, j'avais jamais le temps d'aller en Afrique, j'avais jamais le temps de venir en Europe. Puis c'était une espèce de ça serait bien qu'on se voit. On se voyait pas. Là, du jour au lendemain, on s'appelait, on zoomait,
en visio, ouais.
Et on commençait à monter des choses. Donc c'est vrai que ça a permis d'accélérer énormément nos affaires.
Alors, accélérer entre avant et après la pandémie, entre avant la pandémie et aujourd'hui.
Globalement, on fait à peu près chiffre d'affaires à peu près fois 3 quoi, par rapport à 2019.
Ouais, on a fait une accélération en très peu de temps, quoi.
Ouais, non, c'est incroyable. Alors tout n'est pas il faut structurer maintenant parce que c'est vrai que c'était une croissance très rapide, un peu violente. Aussi. Vous avez l'habitude.
On a connu ça.
Moi, dans nos métiers, c'est moins l'habitude quand même. Donc, il faut structurer un peu tout ça.
Alors, tu es aujourd'hui à la tête d'un groupe qui s'appelle Joke Nation. Qu'est-ce que c'est Joke Nation?
En fait, Joke Nation, ça reprend un peu cette vision dont on parlait au début. la nation du joke, la nation du gag. En fait, voilà, on est unifié par l'humour. Et c'est une marque qu'on a créée et qui aujourd'hui est un peu la marque du groupe, en fait. Même si, voilà, on l'a encore pas vraiment lancée à l'échelle mondiale. Mais,
donc, c'est des spectacles à Montreux, à Cannes, à Lille, à Abidjan, à Montréal, à Johannesburg.
C'est un circuit. En fait, nous, aujourd'hui, on gère 6 festivals ou événements dans le monde. On gère Lille, Montréal, la Belgique, la Suisse. Voilà, on a parlé avant de l'Afrique du Nord. On est en Tunisie, en Algérie, à Abidjan, au Congo et en Afrique du Sud. Et en fait, finalement, c'est le dénominateur commun de tout ça, Joke Nation. Moi, je suis convaincu qu'il y a la possibilité de créer un géant de l'humour et ça n'a pas été fait encore. Et je crois que si ça n'a pas été fait, c'est parce qu'il y a deux choses essentielles dans nos métiers. C'est de garder l'artisanat parce que dans l'humour, tu ne peux pas créer un humoriste. Autant, je pense que tu peux créer, je ne suis pas dans la musique, mais je pense que dans un bon studio, peut être capable de créer un tube, ou en tout cas créer une chanson. Moi, je pense que je ne sais pas chanter, si quelqu'un travaille bien sur le mixage, il arrivera plus ou moins à me sortir quelque chose.
Ouais, il y a forcément quelqu'un de très bon sur la chaîne, mais ce n'est pas forcément celui du départ, ça peut être tous ceux qui font la musique après. Mais...
Je ne connais pas la musique, donc peut-être des gens vont me dire que je n'y connais rien, mais j'ai le sentiment que c'est plus facile de construire. D'ailleurs, on le voit aussi quand les gens reprennent des tubes des anciens, c'est marrant parce que c'est une interprétation différente et puis on est content parce que la musique est cool, etc. L'humour, c'est tellement personnel que tu peux pas prendre le texte de Paul Mirabel et le donner à Blanche Gardin. Ça va pas marcher. Mmh. Par contre, ce qui est possible, c'est de scaler et d'industrialiser un certain nombre de process, le marketing, la production, oui. Et tout ça. Et c'est ça, Joke Nation.
Faire connaître, faire grandir.
C'est ça, Joke Nation. C'est faire grandir en utilisant des moyens de scaling, mais en respectant la particularité et l'ADN des individus, des régions, des villes, des pays, des continents.
C'est ça, Joke Nation. Je milite pour le mot échelé et pas scalé, parce qu'enfin, on n'a pas de mot.
Échelé, ça me va très bien. Merci.
Inventons-le avant que nos amis québécois ne le fassent, d'ailleurs.
Merci. Par contre, si tu es d'accord, je garde le mot comédie avec un Y, à l'intention de tous les puristes de la francophonie, parce qu'on a beau me raconter qu'on a le mot français comédie, c'est pas la même chose. Une comédie, c'est une pièce de boulevard, alors que la comédie, c'est du stand-up. Et le stand-up, non plus, on l'a pas en français, on a le seul en scène, mais Fabrice Lucchini et Blanche Gardin ou Paul Mirabel font pas le même métier.
Tout à fait.
Pardon pour ce petit cours sur le comédie.
Alors, on a fait le tour d'un bout de ton parcours. On va maintenant passer à tes passions.
Ah, chouette.
Ton monde, tes passions, ta passion, ta grande passion à toi, c'est l'humour et l'humour partout. Rebecca.
Et parmi vos productions, l'Hilarious à Lille, un festival de show-concept, créer des spectacles et expériences qu'on ne peut pas voir ailleurs. Un moment de rencontre, d'énergie pour se différencier des autres et pour réunir parfois jusqu'à 10 000 personnes. Et en tant que pionnier du rire que vous êtes, vous avez présenté en 2022, lors de la première édition de ce festival de l'humour, une première mondiale, une innovation, la réalité mixte, le premier spectacle humoristique holographique du monde présenté à Tourcoing. Le duo humoristique composé de Cécile Giraud et Yann Stotz s'est prêté au jeu de la réalité mixte. L'un est sur scène pendant que l'autre est matérialisé en direct alors qu'elle était à Paris. Munie d'un casque de réalité virtuelle et grâce à quelques caméras et écrans installés dans la salle, Yann Stotz a pu interagir en toute tranquillité avec son binôme. Une petite révolution qui permettrait de créer un festival de l'humour, pourquoi pas à l'international.
Oui. Alors, j'ai pas de passion dans la vie, en fait, finalement. Quand je vous entends, je travaille, et ma passion, c'est le travail, c'est la même chose.
Ah ben, c'est justement ça aussi qui te rend exceptionnellement efficace, je pense, parce que quand on est motivé, on déploie une énergie bien plus grande. Et alors, justement, puisque tu as déployé l'Hilarious à Lille, on a une question, et même deux pour toi, de la part de quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France.
Oh là là.
Alors Grégoire, cette interview, ça se passe comment ? Bon, j'ai une question à te poser. On est en 2024. En 2030, comment tu vois, comment tu imagines l'Hilarious dans les Hauts-de-France ? Dis-moi. Et puis, je sais pas si j'ai le droit à une deuxième question, mais si on a une deuxième, il y en a une qui me brûle les lèvres. Comment quelqu'un d'aussi sérieux que toi peut faire d'aussi belles choses dans le domaine de l'humour ? Dis-moi tout.
Alors, belle question.
Oui, deux belles questions.
D'abord, ça me permet de dire à quel point je suis heureux d'être dans les Hauts-de-France et à Lille, et dans d'autres villes.
C'est dans le Nord qu'on rit le plus fort.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un endroit. Alors, je pense qu'on rit beaucoup dans beaucoup d'endroits, mais c'est vrai qu'il y a un public très chaleureux. Les artistes adorent aller jouer dans le Nord parce que justement, il y a cette proximité avec le public qui est très chaleureux. Et c'est une terre d'entrepreneurs aussi, ce qui me plaît beaucoup. Ce que j'ai découvert en y allant depuis 3 ans maintenant, il y a vraiment tout un écosystème qui soutient et qui a une vision pour cette région. Donc, pour répondre à la question, moi, j'espère qu'en 2030, L'Hilarius sera un grand festival international. Quand on s'est rencontré avec Xavier Bertrand pour la première fois, j'avais donné une feuille de route qui était de faire un festival international, déployé dans toute la région de Hauts-de-France et rayonnant dans toute la France, mais aussi avec la possibilité de travailler avec les régions périphériques ou limitrophes, hein, la Belgique, la Hollande, pourquoi pas l'Angleterre, qui est une grande terre d'humour aussi. Et puis, de vraiment mettre en avant cette innovation qui est essentielle dans tous nos métiers, hein. Dans tous nos métiers, mais c'est vrai que ce qui est fondamental dans notre domaine, c'est d'essayer des choses. On parlait avant de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le spectacle holoporté. On peut en parler. On peut en parler pendant. On peut faire des réunions, en parler avec des ingénieurs. Il y a un moment donné, il faut le faire dans l'humour.
Et c'est là qu'on voit que si ça marche. Pas beaucoup. Hein. Quand t'as envie de faire un
non,
truc,
j'aime bien avoir une idée et la faire. Et puis, si ça marche pas, on arrête, on corrige. Ouais. Et si ça marche, on garde. Et c'est vrai que l'Hilarius nous permet justement de tester des choses.
Merci pour ce partage de passion. On passe maintenant à la séquence rapide de cette émission qui s'appelle le Quizzella. Alors, le Quizzella, voici les règles. C'est assez simple. Je te pose des questions, tu réponds le plus vite possible.
Ok.
Ok, c'est parti. Alors, le sketch que tu conseilles à tout le monde de voir?
Bah, le sketch de Paul Mirabel, tiens.
Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi?
Ouh là là, je sais pas. Peut-être du business, parce que j'aime bien le. Bah, c'est bête comme question, enfin comme réponse, mais c'est une très bonne question, très intelligente. C'est une bête réponse.
Non, autrement, c'était parti pour être.
J'aurais pas été humoriste. En fait, j'aurais jamais pu monter sur scène parce que c'est trop dur, et je trouve que les artistes sont incroyables de pouvoir le faire. J'aime bien monter des projets. J'adore monter des projets. Je trouve c'est très excitant d'avoir une idée et de la transformer, de la voir X mois plus tard réalisée. Donc peut-être j'aurais fait du business, tout simplement.
Bon, ton plus grand rêve aujourd'hui?
Vivre jusqu'à 140 ans.
140 ans, je note. Hein.
Ouais. Il paraît que c'est possible. J'ai croisé l'autre jour.
On fera une autre émission.
J'ai croisé l'autre jour dans un hôtel une personne qui m'assurait qu'aujourd'hui, biologiquement, on pouvait vivre jusqu'entre 120 et 140 ans.
D'accord. Alors.
J'ai pris la version haute.
Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi?
L'esprit pionnier, vraiment pour moi, c'est de partir, je l'ai dit déjà une fois, c'est de partir à l'aventure sans savoir où on va. J'aurais adoré si j'avais vécu au 15e siècle, j'aurais adoré partir sur un bateau et sans savoir où j'arrive.
Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains nous regardaient aujourd'hui dans les pionniers, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais?
Amusez-vous, rigolez. Prenez les choses avec légèreté et rien n'est grave en fait.
Alors on va se quitter sur cette chanson que tu as sélectionnée.
Ouais. Je peux dire pourquoi ou...
Et exactement, tu vas exactement nous raconter pourquoi.
Alors, pour plein de choses. D'abord, parce que Freddy a vécu à Montreux.
Freddy Mercury. Freddy Mercury de Queen. Donc.
Voilà, lui ne savait pas qui j'étais, mais moi, je savais qui il était. Et je l'ai vu très souvent sur les quais à Montreux. Et c'était incroyable d'avoir cette personne mythique qui vivait dans la même ville que moi. J'ai vu des concerts, un concert notamment de Queen qui répétait avant sa grande tournée, je ne sais plus dans quelle année, où j'étais dans la salle, j'avais eu des billets et je m'étais dit, waouh, c'est ça que je veux faire, de l'entertainment. Et j'y pense souvent. Et puis, cette chanson particulièrement, ou ce morceau particulier, qui prouve à quel point, quand on a une vision artistique, quand on a une envie
Bohemian
artistique,
Bohemian Rhapsody,
ouais. Voilà, qui a été blacklisté, hein, ou qui a été interdit par toutes les chaînes de radio du monde, avant que ça devienne un hit mondial. Deux fois numéro un dans les charts américains à 20 ans d'intervalle, ce qui est quand même unique. Et ça montre à quel point, quand on a une idée artistique, ou une idée, hein, tout court, même une idée de business, et que tout le monde vous dit non, c'est pas pour ça que c'est une mauvaise idée.
Et c'est ce que tu as fait avec le Montreux Comedy.
Modestement par rapport à Queen. Mais
et c'est un peu donc mais... grâce aussi à Freddie Mercury.
C'est grâce à Freddie Mercury.
L'on doit, c'est un peu grâce à lui qu'on a le Montreux Comedy Festival aujourd'hui. Merci Grégoire de nous avoir partagé tes passions de pionnier, tes émotions.
Merci.
À bientôt.
Mais oui, à très bientôt dans 140 ans.
Dans 140 ans. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.
BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
C'est la suite des pionniers avec le pitch cette semaine avec Rebecca. Sur le plateau, on a le plaisir d'accueillir Eric, fondateur de Time to Pitch, Eric Salomon. Bonjour Eric.
Bonsoir Fred.
Alice Loriot, cofondatrice de Todico, la plateforme de financement participatif.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau pour la section marché de nos pitchs. Alors, vous le savez, vous pouvez venir vous aussi sur le plateau, présenter votre projet comme les pitchers que l'on va recevoir dans quelques instants. Pour cela, rien de plus simple, scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien vous allez sur le site de l'émission Les Pionniers sur BFM Business.
Les Pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
Et aujourd'hui, nous recevons sur le plateau des pionniers Henri Buneau. Bonjour Henri.
Bonjour Henri.
Bonjour à tous.
Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes le fondateur de Concrète, donc je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Eric qui sera attentif à votre pitch, à Alice qui sera attentive au marché de votre secteur et à Fred qui sera attentif à votre produit et on les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. Est-ce que vous êtes prêts ?
Prêt.
Et bien 3, 2, 1, top chrono, c'est parti.
C'est parti.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Concrète, la plateforme qui va révolutionner l'achat des matériaux de construction. Quand je parle ici de matériaux de construction, je parle des matériaux bruts d'extraction, ce qu'on appelle également le granulat, le sable, les graviers, les cailloux. C'est le deuxième marché en volume vendu après l'eau. 9 milliards d'euros en France par année, soit 17 kilos chaque jour par Français. Imaginez que vous êtes professionnel du BTP, vous avez différents chantiers à travers la région. Trois problématiques. Problématique économique, le coût des granulats a augmenté de 30% en 2 ans. Une problématique d'efficacité, pour un professionnel sur deux, l'approvisionnement en matériaux est source de retard sur chantier. Une problématique géographique, vos chantiers bougent, vos fournisseurs doivent bouger également. Tous les 30 km, le prix de livraison double pour constituer jusqu'à 80% du panier total. C'est pour cette raison qu'on a créé Concrète. Concrète, c'est la plateforme à destination des TPE et PME du BTP qui vous permet en quelques clics de créer votre chantier et de trouver le meilleur fournisseur avec une livraison en 24-48 heures partout en France. Après un peu plus d'un an de commercialisation, Concrète, c'est 15 000 tonnes livrées et une ambition forte. Devenir la plateforme incontournable des gros projets en réunissant acheteurs, fournisseurs et transporteurs au sein d'une même plateforme et mettre en avant des synergies fortes pour mettre, pour vendre davantage, excusez-moi, de granulats recyclés et aider l'économie et l'écologie de ce secteur.
Merci Henri.
Merci.
Bravo, merci. Est-ce que notre jury a des questions avant de délibérer? Alice.
Juste peut-être pour clarifier, du coup, c'est un service de mise en... Enfin, vous, votre valeur ajoutée, c'est de la mise en relation, c'est de répertorier. C'est bien ça?
Oui, c'est ça, exactement. Okay. Oui, tout à fait.
Et vous avez mentionné juste la partie donc matériaux recyclés, écologie. Vous allez, par exemple, les mettre davantage en avant par rapport à d'autres fournisseurs?
Oui, alors en fait, on va avoir trois impacts d'un point de vue écologique. Le premier, c'est les circuits courts. C'est-à-dire qu'on va mettre énormément en avant les producteurs locaux qui se trouvent à proximité des chantiers. Deuxième impact, c'est vraiment la promotion des granulats recyclés. Aujourd'hui, sur les 15 000 tonnes qu'on a vendues, on a vendu à peu près 30% de granulats recyclés. On essaie vraiment de les mettre en avant pour pouvoir en vendre le plus possible, dès que possible. Et le troisième impact, c'est la création d'une bourse de fret pour tous les transporteurs en vrac. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un trajet sur deux en transport vrac est fait à vide. C'est un problème qui est économique et écologique pour les sociétés de transport. En leur proposant des courses ponctuelles rémunérées pour remplir leur camion d'un point A à un point B, quand ils rentrent au dépôt, par exemple, en fin de journée, ça permet d'avoir un impact positif sur l'environnement.
Merci. D'autres questions, Fred ?
Oui, mais j'ai une autre question pour bien comprendre le produit. Alors, j'ai compris l'histoire du covraquage, hein, on va appeler ça comme ça, du vrac qui se déplace ensemble. Mais alors donc, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, la plateforme, si je dois décrire ça
sa valeur ajoutée la plus forte, c'est quoi? C'est un gain de temps, c'est un gain d'argent. Alors j'ai compris qu'on peut, si on a envie, construire son chantier comme on veut en 48 heures, ça donne presque envie de le faire. Mais il faut pouvoir le stocker. Mais donc, en quelques mots, l'avantage par rapport à la situation actuelle que la plateforme apporte, ça fait gagner du temps ou de l'argent à qui?
Alors, ça fait gagner du temps et de l'argent à nos utilisateurs, à nos acheteurs.
Ça fait gagner. C'est des gens qui organisent des chantiers.
Ça va être des artisans, des TPE, des PME, du BTP, qui vont avoir besoin de granulats pour faire une allée ou même pour couler une dalle en béton. Ça leur fait gagner de l'argent parce qu'on va comparer tous les fournisseurs qui sont à proximité du chantier. Il faut savoir que c'est un marché qui est assez opaque, au point que nous, en quelques mois, on est devenu fournisseur d'un des chantiers du Grand Paris parce qu'on avait les prix les plus intéressants. Parce qu'aujourd'hui, la transparence est un peu compliquée dans ce secteur. Et nous, on va justement apporter de la transparence à nos clients. Donc, gain économique. Gain efficacité. Aujourd'hui, quand vous avez besoin de devis auprès des fournisseurs, vous devez demander des devis. Vous devez de temps en temps les relancer parce que, bon, ils ne sont pas forcément équipés de logiciels pour poursuivre toute la partie commerciale. Avec nous, le devis, il est automatique. Vous le faites vous-même, vous recevez, vous pouvez passer commande et vous faire livrer le lendemain. Et c'est aussi un gain géographique qui va, on va dire, rebondir un peu sur les deux gains précédents. C'est-à-dire que nous, on est disponible partout. Aujourd'hui, même si vous prenez les plus grands producteurs, ils vont couvrir à peu près 30% du territoire. Donc, dès que votre chantier, il a bougé de 30 km, vous devez refaire une nouvelle recherche de fournisseurs, une nouvelle recherche de prix. Nous, quand on ouvre un compte chez nous, on ouvre un compte chez nos 600 fournisseurs qui sont aujourd'hui référencés sur la plateforme.
D'autres questions avant de délibérer ? Non, on est bon.
C'est bon pour moi pour l'instant.
Et bah à tout de suite alors. Merci
à tous.
Pour les notes.
Merci, à tout de suite.
Henri, vous venez à l'instant de pitcher. Vous me disiez que vous trouvez que vous êtes allé trop vite.
Oui, je suis peut-être allé un petit peu vite parce que c'est un marché qui est très complexe. Donc il faut vraiment arriver à poser les bases. Le marché du granulat peut être très large. C'est le deuxième marché en volume vendu, hein, comme je l'ai dit. Il y a de réelles synergies qui existent entre les différents acteurs de ce système, donc que ça soit les acheteurs, les fournisseurs, les transporteurs. Aujourd'hui, c'est un marché qui est très atomisé et effectivement, c'est très dur de remettre tout en place pour un marché qui est déjà déconstruit.
Donc, quelques éléments manquants, mais plutôt fiers de votre prestation.
Oui, totalement. Je pense quand même avoir réussi à montrer les avantages qu'ont les utilisateurs de notre plateforme, que ça soit côté acheteur, fournisseur ou transporteur. Donc oui, plutôt fier.
Vous appréhendez le retour en plateau, le retour des coachs?
Non, dans tous les cas, ça sera des commentaires qui seront bons à prendre pour progresser.
Bon bah, c'est parti, on retourne en plateau pour découvrir les notes. Nous sommes de retour en plateau avec Henri pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti, 3, 2, 1. C'est donc un 7 pour le pitch pour Eric, un 8 pour le marché du secteur pour Alice et un 7 aussi pour le produit pour Fred. Eric, je te laisse commencer.
Henri, c'est un 7 prometteur. Avec toi, on a vraiment un sujet sur, d'un côté, la forme, d'autre côté, le fond. Sur la forme d'abord, très engagé, ça peut être un compliment. Ça devient un peu moins bien qu'un compliment quand on est un peu trop engagé. Peut-être quand t'en mets trop dans l'assiette. Moi, je te propose de te regarder et puis de descendre un peu le curseur et de parler sur un ton un peu plus conversationnel. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Tu as un accident à la fin? Tu as trébuché. Pourquoi t'as trébuché? Parce que t'es allé trop vite, trop de puissance. C'est un peu comme quelqu'un qui skie. Et le problème, c'est qu'il perd les pédales à un moment donné parce qu'il va trop vite. C'est ce qui t'est arrivé. Donc, essaye plus conversationnel, un peu moins pushy. Et tu vas voir, ça va être aussi bien parce que t'es très bon, très intelligent. Ça se voit, ça s'entend, ça se sent. OK? Ensuite, sur le fond. Alors, sur le fond, c'est pas un pitch facile à faire. Et il fonctionne plus ou moins. Mais il a pêché par un problème technique. Ce problème technique, c'est que je pense que quand tu l'as fait, tu t'es dit, il faut que ça parle à tout le monde. Alors, tu as voulu rajouter des trucs comme 17 kilos par français, des choses comme imaginer que vous êtes un pro du BTP. Alors là, je te dis tout de suite, moi, je ne peux pas m'imaginer pro du BTP. Donc, laisse-moi tranquille. Sors-moi de ton pitch. Les 17 kilos par français, ça ne me parle pas.
Ah, moi, ça me plaît beaucoup, ça.
Et,
je me suis dit, comment c'est...
À mon avis, pose-toi d'abord la question de quelle est la problématique qu'ont ces pros du BTP. Et pars de ça. Et reste sur eux. Reste sur leur problématique. Et là, il n'y aura pas de sortie de route. Et il y a d'autres points. Quand tu dis on a déjà 15 000 tonnes livrées comme une REF, Alors là, honnêtement, pardon, ça ne me parle pas du tout. Je ne me rends pas compte, tu vois, ce que c'est 15 000 tonnes. Pour moi, c'est, je ne sais pas. Je ne sais même pas combien pèse ma voiture. Par contre, tu as dit un autre truc qui était sympa. Tu as parlé du chantier du Grand Paris. Vous avez réussi à avoir un chantier du Grand Paris. Mais ça, c'est super intéressant. C'est vachement crédibilisant. Il faut que tu t'en serves. Parce que là, je me dis, ah ouais, même si je ne comprends pas tout, la boîte, ça a l'air du sérieux. Ça a l'air d'être du sérieux, tu vois. Sinon, il ne l'aurait pas donné. Donc, à mon avis, ça pourrait être très intéressant. Et même comme point de départ.
Alice, un 8 pour le marché du secteur.
Oui, absolument. 8, parce que évidemment, tu t'adresses à une problématique, à un enjeu qui est énormissime. Ce que je trouve très intéressant, c'est de le prendre avec l'angle de le retravailler à l'échelle locale, enfin en tout cas plus locale. En revanche, c'est aussi très atomisé, du coup, quand on se met à vouloir faire travailler les gens ensemble sur une échelle beaucoup plus petite. Donc, ça veut dire beaucoup, beaucoup de personnes à référencer et d'un côté et de l'autre. Donc, c'est ce que je vois un peu comme enjeu fort. Et pour rebondir sur les chiffres, mon conseil peut-être, c'est que le cerveau, en fait, il y a des études qui expliquent que le cerveau a beaucoup de mal à enregistrer les très gros chiffres. Autant on arrive encore à comparer des chiffres jusqu'à, je crois que c'est de l'ordre de 100 000, mais dès que tu t'approches, dès que tu te mets à parler en millions de tonnes, tu perds tout le monde. Et donc je pense qu'il faut absolument trouver des comparaisons, comme le disaient Eric et Fred, beaucoup plus petites, enfin sur des échelles plus proches.
Fred, 7 pour le produit.
Oui, 7 pour le produit, c'est bien, 7. Pourquoi ? Ça rejoint un peu ce que mentionne Alice, c'est qu'il y a une place de marché, une plateforme à construire, oui, parce que de chaque côté, on a bien conscience que, enfin, en tout cas, quand tu l'expliques, que c'est atomisé. Donc, à partir du moment où il y a une demande éparpillée et une offre éparpillée, au milieu, il peut et il doit y avoir une plateforme. Je suis même étonné que ça n'existe pas encore aujourd'hui. Donc, alors après, je connais pas bien le marché. Je sais pas s'il y a déjà des concurrents qui le font, que ce soit à l'étranger ou quoi, parce que tu parles de 17 kilos par jour par Français. Mais en fait, c'est 17 kilos par jour, par espagnol aussi, peut-être bien, par allemand, par, tu vois, par polonais, par américain. Donc, je me demande s'il n'y a pas déjà un produit qui existe ailleurs, parce que pour le coup, quand une solution software, plateforme est développée, elle peut marcher partout. Donc, est-ce que tu as des concurrents?
Alors, en Allemagne, effectivement, on a un gros concurrent qui s'appelle Shootflix, qui a été créé en 2018, qui, deux ans plus tard, faisait 500 000 euros de GMV par mois, qui, jusqu'à aujourd'hui, a déjà levé en tout 120 millions. Avec une croissance de 40% par mois et qui a fait le choix plutôt de partir en République tchèque, Pologne, Autriche pour son expansion et qui vient à nouveau de refaire une nouvelle levée de 50 millions pour aller chercher une rentabilité dans les prochains mois.
D'accord. Ben ça, tu vois, c'est important. C'est-à-dire que là, la course est lancée là.
Tout à fait.
Faut pas traîner.
On traîne pas.
Bravo et merci Henri, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis merci. Très très bonne continuation.
Merci.
Merci Henri.
Merci Henri.
Au revoir.
Il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour, Thomas Cottier. Bonjour Thomas.
Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour
Thomas. Merci d'être bonjour. Là. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes le fondateur de Sonetic.
C'est ça.
Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Eric qui sera attentif à votre pitch, devant Alice qui sera attentive au marché de votre secteur et Fred qui sera attentif à votre produit et on les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui. C'est bon pour moi.
Et bien alors, top chrono, c'est parti pour le pitch.
Ah, bonjour à tous, je suis Thomas Cottier, du coup le fondateur de Sonetic, qui est une entreprise à mission qui a pour but de rendre accessible l'énergie solaire pour lutter contre le réchauffement climatique. L'origine de la création de Sonetic, il vient d'un simple constat. L'énergie solaire est aujourd'hui une réponse très efficace à deux grands enjeux de société, le pouvoir d'achat des Français et le climat. Mais malheureusement, il existe de nombreux freins qui bloquent les Français et qui les empêchent de profiter de l'énergie solaire. Un, le manque de connaissances, c'est un sujet nouveau pour la plupart des Français. Deux, le manque de confiance envers les installateurs. Il y a un Français sur deux qui n'a pas confiance aux installateurs photovoltaïques. Trois, des prix très élevés, souvent injustifiés. Et une absence d'offres pour des locataires. Fort de ce constat, Sonetic a été conçu pour lever ses freins et rendre le solaire enfin accessible. Comment ? Avec la seule station de panneaux solaires français, à installer seul en 5 minutes et à brancher sur une simple prise de courant. On ne peut pas faire plus simple et plus rapide pour profiter de l'énergie solaire aujourd'hui avec ce type de solution. Et ainsi, nos clients, ils peuvent commander sur notre site, sonetic.fr, c'est du B2C, modèle B2C, canal de vente e-commerce, et on les livre directement chez eux en seulement 15 jours. Et ainsi, avec deux panneaux, qu'ils achètent en moyenne du coup 2060 euros TTC, ils peuvent économiser jusqu'à 250 euros par an et rentabiliser en moins de 6 ans, avec une garantie de 20 ans. Voilà.
Merci beaucoup Thomas, merci pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des questions, Alice?
Oui, est-ce que vous pouvez préciser du coup sur la chaîne de valeur, où est-ce que vous intervenez par rapport à la production des panneaux, l'installation?
Oui, donc nous on a fait le choix de faire appel à des panneaux assemblés en France. Il faut savoir qu'il y a 2-3 intervenants seulement qui assemblent aujourd'hui des panneaux solaires en France, donc on n'est pas fabricant de panneaux.
D'accord.
On est fabricant de la station, donc on est assembleur de la station avec notre propre support qu'on a fabriqué avec un modèle déposé à l'INPI. Mais okay. On achète bien sûr le panneau au numéro 1 français, Voltex Solar, qui est basé en Alsace, qui assemble les panneaux. On fait appel à un micro-onduleur d'une marque mondiale aussi, qui n'est pas malheureusement fabriqué en France, parce qu'il n'y en a pas, pas du tout, et même pas en Europe. Donc on assemble la station, on a vraiment fait le choix des meilleurs composants avec, pour proposer à nos clients la station solaire la plus made in France possible et à excellent rapport qualité-prix. C'est vraiment ça notre promesse aujourd'hui.
Une question pour le produit, Fred?
Oui, vous dites que vous le branchez. Alors, on se dit, tiens, c'est marrant, je croyais que le truc qui générait l'électricité, il faut le brancher. non, donc alors, comment ça marche? Ça veut dire que sur n'importe quelle prise, je peux brancher quelque chose qui va alimenter le réseau électrique et ça repart dans l'autre sens.
C'est ça. C'est un peu magique, mais c'est vrai, les prises fonctionnent à double sens. Donc, en fait, on se sert de la prise de courant pour injecter de l'électricité solaire dans son circuit électrique et automatiquement, dès qu'on va brancher, l'électricité solaire va être diffusée dans tout son circuit électrique et ce qu'on prend sur le réseau va immédiatement baisser. Donc à l'instant où on branche, toutes les prises de courant, il faut juste respecter, en termes de sécurité, maximum 4 panneaux par circuit de prise. Voilà. Donc, mais après, on pourra mettre sur plusieurs circuits de prise et la plupart de nos clients, ils en commandent en moyenne 3 panneaux. Donc ils respectent la préconisation. Donc voilà, c'est vraiment très rapide et très simple.
Pour quelle taille les panneaux?
C'est vrai, panneau solaire, c'est la taille standard, c'est 1m80 sur 1m05.
Donc, c'est assez grand.
C'est assez grand, ouais. C'est 2m2, c'est le format standard du panneau photovoltaïque.
D'autres questions avant de délibérer? Bon, bah alors, on se retrouve juste après pour découvrir les notes. Thomas, vous venez à l'instant de pitcher. Est-ce que vous êtes fier de votre pitch? Est-ce que vous avez oublié des choses ou est-ce que vous êtes content de vous?
Globalement content, même si c'est sûr que ça aurait pu être un peu mieux, un peu balbutié à la fin, mais voilà, globalement j'ai dit l'essentiel, j'aurais aimé peut-être dire une ou deux phrases en plus que j'avais préparé, mais c'est vrai que le temps défile vite, donc mais voilà, c'est sans regret, j'ai fait au mieux de ce que je pouvais.
C'est quoi les une ou deux phrases que vous avez oublié de dire?
C'était le nombre de nos clients, voilà, 1500 clients en seulement une année. Du coup, qu'on a équipé et après le rythme de croissance qu'on a actuellement et notre ambition à 4-5 ans.
Est-ce que vous appréhendez le retour en plateau?
Non, moi je suis plutôt curieux de savoir les remarques pertinentes qu'on va pouvoir m'apporter, voilà, le feedback constructif. Donc plutôt curieux et impatient de savoir un peu les réactions du plateau.
Bon, il n'y a plus qu'à, c'est parti, on retourne en plateau pour écouter les retours de nos coachs. Nous sommes de retour avec Thomas pour découvrir les notes qui lui sont attribuées. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un triple 7. 7 pour le pitch, 7 pour le marché, 7 pour le produit. Eric, je te laisse commencer à expliquer ton 7 pour le pitch.
7 prometteur, j'ai envie de dire. Alors, je vais te parler un peu de la forme, beaucoup du fond. Un peu de la forme. Là, tu étais dans ton naturel, donc tu étais à l'aise. Mais je pense qu'il faut que tu t'entraînes à parler avec plus de force. Je pense que tu gardes un peu, ta voix elle est un peu basse et tes mots sont un peu dans ta bouche. Il faut que tu nous les envoies un peu plus fort pour qu'on les entende.
Plus d'intonation à un certain moment.
Il faut que c'est notre confort sonore dont il est question. Après maintenant sur le fond, pourquoi 7 et pas 8 et pas 9? Parce que je pense que techniquement, même si on comprend bien ce que tu fais, il y a une erreur au niveau du démarrage. Et en fait, tu as commencé à parler de ton produit au bout d'une minute. J'ai bien regardé. Pourquoi? Parce que tu as été trop long sur le démarrage. Et tu as été trop long parce qu'il y a toute une partie qui sert à rien. Celle où tu nous dis, l'énergie solaire, c'est vachement bien pour l'économie, pour l'écologie. Et en fait, on le sait. C'est pas ça le problème auquel tu réponds. Et donc, il faut démarrer par le problème auquel tu réponds. Et le problème auquel tu réponds, c'est intéressant parce que c'est un paradoxe. Et les paradoxes, c'est d'excellentes façons de démarrer un pitch. Donc, c'est à quelque chose comme le solaire, tout le monde trouve ça très bien et personne n'en achète. Et là, tu fais pourquoi ? Bam, tu me dis pourquoi. Et là, ça y est, tu me dis c'est pour ça qu'on a créé. Et là, c'est fini.
On gagne,
sur un toboggan.
Ouais, on gagne 20 secondes déjà.
Et là, tu gagnes 20 secondes, tu es sur un toboggan, ce qui fait que, et je termine, parce que là, tu n'as pas eu le temps de terminer. Et donc, il manque quelque chose à la fin. Moi, ce que je te demande, c'est un point d'interrogation au début et un point d'exclamation à la fin. Donc, le point d'interrogation, je viens de te le donner. Et ça va te laisser le temps de nous mettre un point d'exclamation à la fin pour bien marquer ton territoire dans la mémoire de ton public.
Très pertinent.
Incroyable.
Merci pour ce feedback.
Toujours, Eric.
Incroyable.
On passe au marché cette fois avec Alice. 7 sur 10.
Oui, absolument. Alors, j'aurais pu aller plus haut puisque, évidemment, que le solaire est une énergie renouvelable à l'infini. Et donc, du coup, dans l'idée, on pourrait se dire qu'on pourrait tous s'équiper pour avoir et produire notre propre électricité. Mais la question que je me pose, c'est que ça se passe au niveau des particuliers. Que ça se passe du coup en B2C par rapport à en B2B qui ensuite redistribue. Et donc ça veut quand même dire qu'il y a cette notion d'aller équiper un très très grand nombre de foyers avec une durée de vie limitée. Et donc on n'a pas pu rentrer dans ce détail, mais...
Sur le canal de vente,
ouais, exactement.
On peut accélérer plus vite.
Stratégie commerciale et puis aussi durée de vie. Voilà.
Ouais, d'accord, ok.
Fred, c'est pour le produit ?
Oui, c'est toujours un challenge quand Eric a été aussi excellent. Parce que c'est nous, tu sais, on se met des notes entre nous.
Après, et Alice, alors ?
Est-ce qu'on est bon sur nos...
Merci.
Voilà, et Alice aussi. Non, mais on a tous les deux dit que Eric était incroyable. Voilà, donc, mais Alice était incroyable.
Ça,
je le dis aussi.
C'est une émission pour ma mère.
C'est ça. C'est celle-là.
C'était celle-là.
Et on
merci,
la salue.
Maman.
Voilà.
On pense à toi.
On dit bonjour à la maman d'Eric. Bonjour. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je vais aller sur un autre sujet par rapport au produit. Donc, j'ai mis 7. Ça ressemble à un bon produit, mais j'ai une grosse question quand même, qui est l'impact environnemental de cette chose-là, de bout en bout. C'est-à-dire, est-ce que, in fine, l'énergie qui sera produite par cet objet-là sera supérieure à l'énergie qu'il a fallu pour le construire ? Parce qu'on a entendu ça quand même pas mal de fois, qu'en fait, il fallait beaucoup d'énergie pour construire des panneaux solaires qui, en fait, sur leur durée de vie, ne vont pas tout restituer. Est-ce que vous avez
Il est prouvé qu'un panneau solaire, aujourd'hui, il rembourse sa dette carbone au bout de 3 ans seulement, alors qu'il a une durée de vie maintenant de quasiment 30 ans.
D'accord.
Il y a même des panneaux qui sont garantis jusqu'à 30 ans. Et nous, on a des panneaux assemblés en France qui sont garantis jusqu'à 25 ans.
Ok.
Et nous, on a fait le choix aussi d'utiliser des panneaux solaires bas carbone assemblés en France, qui sont à peu près un impact carbone 43% plus faible qu'un panneau 100% assemblé en Chine.
Okay. Donc c'est-à-dire que lui, 43% de moins que 3 ans, rembourser sa dette carbone.
Oui, c'est ça, un an et demi, voilà, parce que en Chine, ils ont encore un mix charbon de 60% en charbon. Mmh. Et en France, on est un mix électrique ou nucléaire, donc un bas carbone.
Je sais pas, moi je trouve que c'est une information que j'aurais bien aimé avoir, parce que justement, quand on parle d'efficacité énergétique, du fait que le solaire, c'est peut-être le futur... c'est bien expliqué pourquoi.
La durée de vie, c'est 30 ans et aujourd'hui, c'est vraiment bas carbone. Donc, ça s'est bien amélioré depuis des années.
Merci beaucoup, Thomas. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, très, très bonne continuation à Sonetic.
Merci, Thomas.
Merci.
C'est la fin de cette émission, Rebecca.
Oui, et si vous aussi, vous voulez venir pitcher, vous pouvez, rien de plus simple, vous pouvez scanner le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran ou alors nous écrire à lespionniers@bfmbusiness.fr. Les deux sont très simples.
Vous êtes donc les bienvenus sur le plateau. Et quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Le temps pour nous, d'ici là, de remercier Eric pour ses conseils éclairés.
Merci.
Alice pour ses conseils également éclairés pour le marché. Merci beaucoup.
Merci
à tous. Merci, Rebecca. Et puis, on se retrouve, nous tous, la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.